Les sanglots de l'aigle pêcheur, récit et poésie sur la guerre kanak de 1917 en Nouvelle-Calédonie. La guerre de 1917 est partie du refus de certains Kanaks d'obéir au chef administratif, à qui les Blancs avaient demandé de recruter des hommes pour la guerre de 14. Mais des Kanaks, menés par leurs chefs Noël et Waï, ont refusé d'aller se faire tuer en France. Et c'est ainsi qu'a commencé une guerre contre la colonisation dans la région de Kone, en Nouvelle-Calédonie.
Je m'appelle Yvon Gomwendo Katwe. Je suis originaire de la tribu de Tiawe, à Kone, en Nouvelle-Calédonie. J'ai grandi à la Tiawe, même. J'ai fait ma scolarité à Tiawe. À Tiawe, il y avait une bonne soeur qui faisait l'école. On nous apprenait l'histoire de France. Mais l'histoire de chez nous, on ne nous apprenait pas. L'histoire, la géographie de la France. Et très peu sur la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je dis à l'école, à la maison, ben voilà, mon père me disait que me parlait un peu du chef Noël, hein, qui s'est fait décapiter par la rampe, enfin, dans 17. Ensuite, je suis parti dans les années 60 dans le petit séminaire de Canala, sur la côte est du pays. J'ai passé 6 ans là-bas. Une école où ils préparent les prêtres kanak. Pendant les 6 ans, là, j'ai perdu le païki, ma langue. Parce que dans cette école, il fallait parler que le français. Le français, c'est le bon français. Et dès qu'on nous surprenait, entendre parler nos langues, on prenait le fouet d'abord, hein, et ensuite on est puni. Je me disais, si je ne parle plus ma langue, je vais la perdre. Et puis moi j'ai senti que, ça y est, j'étais foutu. Pendant les grandes vacances, quand je rentrais chez moi, quand je voulais parler le païki, je n'arrivais plus. Je mélangeais le païki et le français. Et dans ma famille, les jeunes comme moi se moquaient de moi. Et ils disaient, « Ah, tu ne sais plus parler le païki. » Et moi, je n'osais plus jouer avec eux, me promener avec eux. Parce que à chaque fois que je prononçais mal un mot, dans la langue, et ils se mettaient à rire, ils se foutaient de moi. Et puis, je me suis dit, ah, je ne vais pas continuer à rester avec eux, je vais aller vers les vieux, et les vieux, les écouter parler. Et quand je les entends parler, le mot dont ils se moquent de moi, je me disais de la tête, ah voilà, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Et chaque fois que je revenais pendant les grandes vacances, pendant 6 ou 7 ans, je réapprenais le païki. Et voilà, tous les ans, je reviens. Et puis, à la 7e année, je reviens. Et puis, je tombe sur quelqu'un de la famille. Je lui dis, maintenant, si vous voulez vous moquer de moi, allez-y. Parce que je parle le païki parfaitement comme vous, maintenant. Et depuis, ils ont passé la parole entre eux. Et lui, là, ça y est, il parle parfaitement le païki comme nous. Alors qu'on s'est toujours moqué de lui. Je travaille avec un ethnologue depuis 2005, Alban Bensa. Il est venu avec les deux frères de Joseph, le maire nous connaît, Jean-Marie et Samuel. Il m'a dit, voilà, je viens te voir, c'est pour pouvoir travailler. Et le mardi 21 septembre, quand on a commencé à travailler, c'était sur transcrire une cassette en paille sur 17. Bon, la première semaine, c'était pas très facile pour moi. Mais la deuxième semaine, c'est moi qui tenais le petit appareil. Je lui dis, voilà, il dit ça. Et puis ça y est, c'est parti.
Le loyer est invulnérable. Il a mâché l'herbe amère et la feuille de l'arbre urticant.
Alors nous arrivons ici, c'est l'endroit où il y a eu ce fameux pilou de réconciliation, où des guerriers kanaks ont été attrapés, c'est-à-dire piégés par la colonisation. C'était un piège pour attraper Noël. Malheureusement, Noël n'était pas là. Ils ont attrapé des guerriers, ils les ont emmenés à la caserne de Koné. Et d'autres se sont enfuis avec Noël. Et Noël, il est monté là-haut, sur cette savane.
Anaïs Nengue.
Ils exécutent là-bas le pilou de guerre en s'enduisant de noir de Bankoul. Ils sont tout noirs et on ne les reconnaît plus. Puis Noël les conduit pour qu'ils dansent à Tchémon. Arrivé, on choisit quelqu'un. Ce n'est pas Noël, c'est un de ses cousins de là-bas, c'est Jean, mon père. Toi, tu prends le panier. Ce sera la protection de la danse et des danseurs. C'est ainsi qu'ensuite, ils marchent en menant la danse, alors que les deux frères, Puengue Noël et Wai, restent en haut. La danse qu'ils exécutent est là-haut, près de Puenaki. C'est le site des danses des ancêtres, et c'est la danse des ancêtres. Quand ils descendent du rocher, ils suivent ce sentier. Tous les ancêtres qui suivent ce sentier viennent des rochers, de tous les rochers et de tous les arbres. Et comme les ancêtres, ils suivent ce sentier. Et leur danse, nous pensons toujours que c'est celle des ancêtres. Et voilà, ils dansent. Et à la première figure de danse, ça allait encore bien. À la deuxième danse, c'est le fusil qui claque. Claque le fusil du Tahitien contre Noël, là-haut. Il lui tire dessus, là-haut. Il se sauve en se dispersant. Papa Jean, lui, se sauve. C'est ainsi qu'il prend le panier, leur panier sacré, celui de grand-mère. Et Papa Jean le prend et il s'enfuit avec. Il se sauve avec car les fusils claquent, les fusils des blancs Tahitiens ou ceux des Kanaks pètent. Quant à Noël, lui, il se tient comme ça, debout, pour provoquer. Il tient avec lui le tabou de guerre et pose le pied sur un petit niaouli. Maman dit que le petit niaouli sur lequel il pose le pied est petit comme ça. Et il lui tire dessus en montant. Il leur tire dessus depuis le bas et il y a un mort. Quant à Noël, il n'a rien. Quelques-uns parmi eux s'enfuient. Papa monte et les hommes se sauvent et arrivent à la tribu Puenaki. Et ceux qui suivent leur crient que Puenaki sera incendié et que ce sera l'incendie à Goropipu aussi. C'est ainsi que Puenaki est incendié, comme là-haut, Gurupipu. Jean, lui, se sauve. Il se sauve avec le panier sacré et monte. Et alors le gendarme dit, voilà la somme d'argent. Celui qui attrape Noël doit l'amener ici. Cette somme d'argent sera à lui. Alors les soldats sont venus parler à l'arabe de l'argent. Et voilà. Noël Puenge descend chez l'arabe. Et l'arabe lui dit, c'est bien, je suis en train d'aiguiser ma faucille car je descends couper l'herbe. Nous deux, nous allons descendre couper l'herbe pour l'âne. Et Noël dit, allons-y. À ce moment-là, il avait déjà déposé toutes ses armes. Mais il se trouve qu'il ne devra y avoir qu'un seul maître. Ce sera la gendarmerie. Ils descendent tous deux au creek qui s'écoule. Et voilà. L'arabe frappe avec la faucille comme ça. Et Noël tombe et c'est fini. Et l'arabe prend sa tête. Il la porte à Koné. Et le premier ensemble de cocotiers, de l'autre côté, là-bas, c'est là que Noël rendait visite aux vieux quand ils habitaient là-bas. Le cocotier qui est debout, c'est là qu'il est, lui. Quant à l'arabe, c'est celui qui vient donner sa diou là-haut. Noël est venu sur le terrain, là, pour y mourir, parce que tout chez nous s'étend jusque-là. Quant à ce terrain, c'est celui des Poitimba, là en bas, à Tchemou. Tout ce coin commence de là-bas, à Beko, en venant par Tchemou, jusqu'ici, à Okakana. C'est là qu'il est venu mourir. Et voilà, voilà son histoire. Et nous en sommes arrivés là, à la cérémonie et à la stèle.
Sur la stèle de commémoration de la guerre de 17, c'est écrit, nous, on n'a pas connu Ataï, mais là-bas, cela a explosé. On ne s'est pas levé pareil, car les feuilles sont tombées. Nous construisons le pays, le lieu de notre fierté, dans notre monde à nous. Nous voyons où est notre place.
Voilà. On arrive à la stèle de Tchemou. Point de l'endroit où Noël a été décapité. Décapité par la rame. C'est ici le 24 septembre 2009 qu'a eu lieu l'inauguration de la stèle en mémoire de Noël et de Wain et des guerriers kanaks de la guerre en 17.
Michel Mériatu.
Pourquoi faisons-nous les surpris? Que peuvent-ils bien faire là-dedans? Où tournent-ils de la sorte? Ils s'activent l'un l'autre dans l'eau, tournent ensemble en France et tourniquent avec Guillaume, s'arrangent avec Poincaré. Un manège à coups de fusil. Ils se piquent à la baïonnette. Quand arrivent là-haut les canons, alors ils sacrifient leur vie. Ils évaluent l'entrée dans la guerre. Sors donc un peu, toi, Guillaume. Descends donc voir Poincaré. Descends pour écrire une lettre. Descends pour prendre le papier. Tu vas écrire le courrier pour donner de leurs nouvelles. Et tu énumères leurs noms. Écrit adressé à Galé. Tu lances les noms à Morisseau, tu lances les noms aux ministres, et ça passe dans le fer. Cela vibre dans les câbles, contenant du message de guerre. Cela résonne à l'état-major. Ça passe dans le fer, ça vibre dans les câbles, contenant du message de guerre. Et ils s'enfuient de l'île Nou et abandonnent le dépôt. Se sauvent de l'artillerie et partent vers Ducos. Se sauvent chercher Menengou et recherchent Atea. Parce qu'ils envoient les soldats, qu'ils donnent des hommes qui n'acceptent pas d'être enrôlés. On s'y refuse à Chipou et s'est envoyé à Pouembou. S'est refusé à Kungu et s'est envoyé à Neuna. Tandis que le cri résonne, quand pleure le messager qui pleure en croisant les autres, qui sanglote en boitant. S'est envoyé à Pouembou, s'est refusé à Kungu, s'est envoyé à Neuna. Tandis que le cri résonne, quand pleure le messager qui pleure en croisant les autres, qui sanglote en boitant. De l'île Nou, il pleure. Il pleure du sémaphore. J'ai mis à l'artillerie, il pleure en venant de Ducos. Le message de guerre envoyé par Barreau, le message donné par Derecce, envoyé par Derecce, envoyé par le directeur. Écoutez donc. Écoutez. Entendez bien, entendez. Écoutez leurs rumeurs. Écoutez le bruit qu'ils font. Écoutez leurs éclats de voix.
Écoutez leurs rumeurs. Écoutez le bruit qu'ils font.
Pour observer la jeunesse, il surveille les bananiers, il scrute la force du pays. Ah, entendez la fanfare, nous sommes tombés. Entendez les bananiers, Nanjou. Entendez la jeunesse au
pendant que
bananier Goyeta couche au pouvoir. La jeunesse pouet.
Quand le dindon
nous écrase,
puisez. Quand se sauvent les graisses,
et regardez l'eau.
Et que chante le
nous voyons les balles siffler.
Apportez et puisez l'eau comme
l'eau
visiter
l'eau,
celui d'en bas.
Des insultes.
Puisez donc le celui qui va sortir. Sors, toi, poétique.
L'eau de feu.
Sors, debout, dehors. Nous regardez.
Apportez la bougie de graisse.
Quand tu cries, on a la fièvre.
Pour chercher
quand
dans la
maison, on a chaud. Ça perce.
Et on
ça
se réchauffe.
Crie, ça éclate sans délai.
Et on s'éparpille.
Et on sursaute
sans protection.
Nous cherchons
notre chemin.
On se relève pour remonter. Allez, on va commencer à gravir.
Pendant que crie le chevalier, quand le dindon
on va couper
qu'on
par
se
la ligne de crête.
Et que chante le coq, descendons visiter
allez,
celui d'en bas.
Derrière
sors
le sommet.
Celui qui va sortir, sors-toi, Boichéou.
Parce qu'ils vont lancer l'aiguille. Ils vont tirer la filoche. Ils vont lancer l'âge de guerre. Ils vont tirer la perche sacrée. Et trancher notre volonté.
C'était à Tiaoué, enfin dans ma famille, parce qu'il y avait un deuil, un décès. Et Michel Meratou, je l'ai vu, hein, il était à l'écart. Puis il parlait tout seul. Puis on s'est approché avec d'autres gars, puis moi j'ai posé la question, mais pourquoi il parle comme ça là? Au lieu de dire tout à l'heure, quand il y aura la cérémonie coutumière. Et les autres m'ont dit, non, c'est pas un discours sur la coutume. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, c'est un tenant. Je dis, mais le tenant, là, ça veut dire quoi? Ah, c'est comme les poésies. Ah bon, puis on s'approche, puis on l'écoutait tout, mais il parlait, il récitait par cœur. Ah, voilà, c'est ça là qu'ils appellent tenant. Bon, mais par la suite... mariage, décès, tout ça, quand il venait à Tiaoué, renaissant de là-haut, ben, dès que je le vois, ben, j'allais l'écouter, parce que c'était intéressant. C'est intéressant ce qu'il récitait, parce que c'est nouveau pour moi. Non, mais c'est comme en français c'est poésie, mais ce sont des vers de huit pieds.
En prison, nous sommes entrés sans délai alors que nous sommes en prison. Nous sommes entrés sans délai alors que monte la fatigue, alors qu'arrive la maladie, le mal qui nous jette à terre jusqu'à chier du sang. Nous sommes écœurés et ça nous racle comme un peigne. Cela nous épuise
et ça nous renacle comme un peigne.
Nous sentons mal.
Cela nous épuise.
Point tombe en roulant. Chaou tombe et trébuche. Poiroya se couche et il est emporté.
Nous étions
dans la maison enfumée, debout dans la baraque en tôle. La maison où il faisait froid, dans la maison glaciale, la maison à l'ossature de pierre.
Bon, ça aussi, c'est de l'information. Aujourd'hui, j'arrive ici, je récite, mais en même temps, informer les gens qui sont ici. Demain, je repars, quelqu'un d'ici va partir dans un autre endroit, il va faire de même, mais seulement, il va rajouter des vers. Et ça passe, ça informe les gens. Un récit, c'est facile à comprendre. Mais un tenant, c'est... Enfin, si on comprend des mots, mais on ne comprend pas comment elle est le tenant. C'est difficile. Hein. Dans beaucoup de tenants, comme celui de Michel Muratu, j'ai trouvé du païti ancien, qui ne sont pas dans le dictionnaire païti français, mais celui de Jean-Claude Rivière.
Alors, ici, nous arrivons dans la tribu de Panaki. En 17, tous les gens qui habitaient là, ils sont partis. Ils ont fui. Ils ont fui. Les cases ont été brûlées. En haut, on voit les deux rochers. Ces deux rochers-là, c'est un grand cimetière des ancêtres. C'est un lieu tabou. Personne n'y entre. Sauf Wain, le frère de Noël, qui pendant 17 était pourchassé par les auxiliaires. Il s'abritait dans cette grotte. Là, on voit là. Alors, le soir, vous cherchez à manger. Et il allait dans la tarendière de ses oncles maternels, arracher deux tarots. Là où on voit, c'est là où il y a le campement des auxiliaires. Et plus bas, c'est la tarendière de ses oncles maternels. Alors il va là et il arrache deux tarots, casse des cannes à sucre et l'emmène là-bas. Dans la grotte. Ici, c'est... Voilà, en face, là, c'est le campement, le fameux campement des militaires. Et en bas, juste en bas, au flanc, là, c'est là où il y avait la taronnière de ses oncles maternels. Les oncles maternels à Wain. Et l'autre côté, là-bas, en face, là, c'est la tribu d'Atéou.
Avec un bundo, vitoire,
Alors ça s'effondre, parce que nous avons défait nos liens, car tu passes outre le tabou de guerre et tu transgresses ses ordres et enfreins l'interdit de la chefferie arc-en-ciel. Quand ça commence à bouger, à jouer, et que tu fends la crête aride, tombe d'un coup les genouillères, s'enlève les brassards, s'arrache les tupéniens, alors tu ouvres l'interdit du feu. Aligner les munitions et tenir conseil. Et quand ça gronde, se mettre en rang, les canons sont rassemblés en file, les soldats anglais défilent, on porte les baïonnettes à Paris, alors que s'alignent les canons allemands. Répercussions jusqu'en Italie, et la maison Sydney est encerclée, et ça crache en Allemagne, et ça va jusqu'à Batavia, grondement des pays alliés. Ils demandent de l'aide pour faire front, et la nouvelle atteint la Grande Terre. La Calédonie peut fournir, et désorientés, ils cherchent. Alors il sursaute et me demande, cherche un rempart pour s'appuyer là où reste de l'espoir, une pierre où fondait la confiance. Alors quelques soldats s'évadent de Nouméa, et c'est la pagaille et la débandade. Et attention, car ça fait du bruit. On tremble, car on ne voit pas à travers. C'est gênant ce qui est coriace, mais le balancier est très solide, et le front reste dur comme un os. Et quand un radeau est en perdition, et que la conque est fendue, que de la chaleur est retirée, et arrachée la haute conque, un soutien entoure les alliés. Oui. Debout, le mouvement du courant qui se lève pour les alliés arc-en-ciel. Et s'agitent des armes à Sydney qui frappent en Allemagne. Cela écœure et recouvre les pays. Alors se vide la maison des Ndui, se fend la maison des Purunde, et tombe l'arme piquante des Goyeta, désordre dans les lignées Ndui. Les sujets des Purunde s'agitent, les Kaori des Goyeta se lèvent, l'ardeur se dresse dans les nuages, et le houp géant touche l'arc-en-ciel, et le voici lui-même victorieux. Il bave, c'est des trombes d'eau. Il explose dans les éclairs et crache de la terre. Le front rebelle disperse la vague, son attache est coupée et Pamalé est apaisé. L'armée regarde les gens rassemblés et en avançant prend les hameaux dans son filet. Et les gens du haut de la vallée descendent, des poteaux sont vite arrachés et des chevrons coupés d'un coup. Faire un toit pour protéger Paris. La pierre de seuil, fusil en faisceau. Et les pierres du foyer, les balles. La cime de la case, comme une tête d'obus prête à riposter. Citer les pousses de bambou. Et son seuil est aux Tahitiens, et noir et blanc les pieds de l'armée. Et ils abaissent leurs fusils et entassent solidement les balles, lèvent les pistolets, amoncellent les armes de Paris en direction de Bordeaux. Face à eux se dresse en ligne un rempart de fusils, une barrière de pierre de fronde qui étincelle. À l'intérieur, le feu plie tout. On s'entasse autour des buttes, à l'abri pour riposter, et à la cantine, les ventres sont amers, et les hommes échangent des coups par jeu. Car le pays sombre encore, et le houp glisse, ainsi que les liens de monnaie pirogue. pour le pays, protégeons-nous, avec le tonnerre qui le garde, le brochet qui part le cyclone, quand volent les nuages, roulent les flots, gronde le cœur du courant et volent les nuées de la tempête. La puissance de l'ennemi est réduite et le souffle éteint la flamme. Au regret, car c'est la nuit, oh, comme le pays est troublé. Les soldats viennent en incendiant par ici. Tous ceux qui étaient là se sauvent en montant par là, car les soldats sont arrivés sur le versant de Koné.
François Pouillard.
Ceux qui habitent ici se sauvent là-haut à Pamalé. Ils montent, traversent et redescendent et arrivent là, où la nouvelle avait été envoyée. Ceux qui sont restés sont poursuivis en descendant. Ils descendent jusqu'à la case. Les soldats incendient les cases en descendant et poursuivent tout le monde en remontant. Ils redescendent là, et voilà, ils repartent au lever du jour et brûlent les cases. Ils ont brûlé cette demeure et cette case-là. Tous ceux qui sont blessés descendent par là-bas en haut. Les soldats leur coupent la tête, le front, le nez et capturent leur chef. Ils les prennent et vont les compter en bas dans la case. Ils les comptent là pour savoir combien ils sont. Ils les jettent dans la case et ils la brûlent. Voilà.
Michel Mériati.
Je termine là. J'arrive au bout de la natte. Pourquoi suis-je si triste? La tristesse et la mélancolie m'envahissent. Mon cœur est balayé. Quand je pleure, en parlant de mes pères, que je m'afflige sur mes cadets ou à l'évocation de mes grands-pères, alors le jour s'assombrit. La lune tarde à se lever. L'étoile du matin se couche. Les pays et les maisons moisissent, sapins et cocotiers penchent, s'enflamment cases et dépendances. Les cases funéraires brûlent. Les conques et les perches penchent. Pourquoi se lève la brise de terre? Pourquoi frappe le vent du nord et se lève la brise rafraîchissante et le coup de vent ravageur? Et se rassemblent les nuages, s'oppose le brouillard, la terre se fend, la chaîne centrale se brise, la ligne de crête se casse, rouler jusqu'au sol, tomber jusqu'à s'inonder, brûler, disparaître à jamais.
Quand je vois le travail que nous faisons là, je vois c'est les canards qui ont bougé pour qu'on la reconnaisse. Parce que on les ignore et pourtant ils sont dans leur propre pays. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Que eux, là, en 17, s'ils ont bougé, c'est pour dire que oui, nous existons. Ne faites pas ça tout seul, nous sommes là aussi. Et ensemble, on peut y arriver. C'est-à-dire bâtir le pays. Si aujourd'hui on est là, c'est par rapport à nos vieux. C'est tous ces vieux qui ont formé l'Union calédonienne, qui ne sont plus sur terre aujourd'hui. Mais c'est eux qui ont, ils nous ont dit, on a déposé le terrain, maintenant c'est à vous de construire.
En 1917, on est allemand,
Nous allons raconter cette guerre en bas à Tchimou, en 17. Alban m'enregistre pour que cela constitue notre histoire.
Ignace Péarou.
Voilà. Wahi les regarde bien, ainsi. Là-bas, les fusils sont dressés en faisceau, comme ceci. Voilà, il y a là des feux bien alignés, et les soldats dorment en rond, à côté. Quant aux fusils, ils les ont bien dressés, comme cela. Ils sont bien alignés, jusqu'au bout, là-bas. Il va et il s'empare des fusils. Voilà. Il examine les fusils. Il s'est emparé d'un fusil, et il l'a reposé d'où il l'a pris. Et il va en retirer un autre, d'un autre tas de fusils. Voilà, il prend encore un fusil et le pose là. Il fait comme cela tout le long, jusqu'en haut, jusqu'au bout, là-haut. Et il repose le fusil, d'où il l'a pris. Wahi les regarde bien, alors qu'ils sont en train de dormir. C'est lui-même qui m'a raconté ça. C'est lui qui m'a fait véritablement son récit de l'affaire. C'est lui qui m'a raconté cette anecdote. Puis il me dit, si j'avais voulu, je les aurais tués tous, là. Je les aurais tués tous. Seulement, je n'ai pas eu envie de le faire, parce que ça aurait été mauvais pour nous. Pour nous, les maîtres de ce pays. Car si je l'avais fait comme cela, nous serions divisés ici, tu vois. Les Blancs, eux, c'est différent. C'est différent, leur façon de faire. Wahi m'a vraiment dit qu'il a définitivement abandonné l'idée de les tuer. Et c'est ainsi qu'aucun mal ne leur a été fait.
Je suis indépendantiste. Je n'ai pas peur de rien dire. Bon, si le pays accède à l'indépendance, ben, tous les gens qui vivent dans ce pays vont bâtir, construire le pays. On ne va pas dire, bon, vous êtes des Européens, retournez chez vous. Non, non. Nous, on est là. Parce que nous, on est prêts à vivre ensemble. Seulement, c'est que c'est en face, il y en a qui ne veulent pas. Hein.
Seul Wahi est invulnérable. Il a mâché l'herbe amère et la feuille de l'arbre urticant.
Je suis optimiste. Hein. Faut pas croire, ouais. Non, non, non. On est. Nous, on est bien. On est bien là. Hein. On est bien. On est prêt à discuter avec ceux d'en face, parce qu'en face, ils sont nombreux, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, ils ne veulent pas, tout ça, mais on va y arriver, on va y arriver.
Les sanglots de l'aigle pêcheur, une production de L'Orage, réalisée par Katia Kovacic. Avec Yvon Kachwe Goromedo, Inias Pearou, Anaïs Nangue, Emmanuel Neuna, Michel Mereate, Émilie Porunde, François Pouya. Et les voix d'Anne-Rachel Gattegno et de Kevin Touron. Merci à Alban Bensa, à Jean-Claude Rivière, au groupement Toemiri Popaï, à l'Académie des langues Kanak et au département de la langue française et des langues de France du ministère de la Culture. Ce projet est un partenariat entre L'Orage et les éditions Anacarsis. Oui.
Je m'en fous. Ah, c'est où ça me calme? Voilà, c'est juste ça.